Mais en parcourant votre bibliographie, je cherchais ce qui pouvait faire tenir tous ces livres ensemble. Alors, c'est certainement pas les lieux, puisque vous nous avez fait voyager de la Tanzanie à l'Algérie, en passant par les plus petits patelins de France. Et finalement, en lisant ce livre, en terminant ce livre, ça m'a sauté aux yeux, ce dont vous ne vous lassez pas d'explorer, c'est bien l'altérité, mais aussi la liberté des autres, jusque dans ce qu'elle peut avoir d'aliénant, cette liberté. J'ai l'impression que c'est un petit peu... ça fait partie des sujets qui pointent dans ce livre. L'enfant dans le taxi a roulé plusieurs centaines de kilomètres pour arriver jusqu'à destination. Mais vous, Sylvain Prudhomme, combien de livres avez-vous écrit pour arriver jusqu'à l'enfant dans le taxi ?
Dans ce que vous dites je retiens, ça me touche ce que vous dites du lien, de l'attirance pour la question de la liberté, y compris dans ce qu'elle a aussi d'aliénant. Enfin, ça oui, je vois bien que j'aime les personnages qui souvent sont dans ce dilemme, dans la quête de quelque chose qui les dépasse un peu, qui est au-delà d'eux et qui les fait sortir d'eux-mêmes. Et qui en même temps les entraîne sur un chemin dont ils ne savent pas complètement où il va les emmener et qui risque aussi un peu de les perdre. Je crois que c'est vrai. Et cet enfant dans le taxi, alors, c'est vrai que. Alors, on va en parler, mais j'ai mis du temps à écrire ce livre, même après en avoir eu l'idée, même après. On va parler de tout ça, mais il est très inspiré d'un matériau familial, d'un secret de famille, et j'ai mis beaucoup de temps, qui a à voir avec ce que vous dites, je pense, effectivement, avant d'oser, enfin, il faut traverser des choses avant d'oser. Là, c'est posé vraiment la question de comment faire pour quelle forme donner à ce livre pour l'écrire malgré une sorte d'empêchement familial, enfin de oui quand même, enfin là il y avait cette question et il fallait trouver cette forme, et ça s'est fait petit à petit, je pense, et le fait d'avoir écrit les précédents m'ont aidé à trouver cette forme là, c'est sûr. Ouais.
Une certaine gêne à l'égard du secret. Alors le livre, il commence très rapidement dans une scène qui va... Alors il y a plusieurs débuts, on va dire, à ce livre. Tout d'abord, deux personnages fendent des bûches. Alors j'imagine que vous y avez pensé, mais un petit peu ce secret de famille, il va venir fendre quelque chose dans le noyau familial au centre duquel se trouve Simon. Et le secret, il surgit forcément du silence. Vous écrivez aussi à partir du silence ?
Oui, très, très clairement, là, en fait, il y a vraiment le roman familial qui se trouve un peu déchiré par la révélation d'un secret qui était en partie ignoré par certains ou su mais un peu laissé de côté. En tout cas, très clairement, ça, le livre, il est autour du déchirement de ce roman familial et de la nécessité d'en inventer un autre, en tout cas, enfin, de le réécrire en y faisant une place pour cet enfant dans le taxi dont l'existence a toujours été tue dans la famille. Donc il y a ce... Moi, je pense que oui, on part toujours du... On part de l'énigme, de quelque chose qui résiste, qu'on a envie de comprendre, qu'on a envie de savoir. Pour moi, l'écriture, elle a beaucoup à voir avec l'élucidation, avec le besoin un peu irrépressible d'aller m'approcher d'une zone dont je sens qu'elle se refuse un peu à ma compréhension dans un premier temps, et donc d'essayer de la... Oui, quand même, ça a à voir avec le secret qu'on veut percer, des choses qu'on veut comprendre de la vie, tout simplement, en fait. Voilà, des personnages qui vivent des situations proches des nôtres, enfin, et on veut comprendre ce qui leur arrive.
Alors, passer cette scène liminaire qui est un départ de feu vers le grand incendie qui va prendre Simon, le deuxième départ de ce livre, c'est un enterrement, l'enterrement de Malouchi, un personnage qui était déjà apparu dans un précédent livre. C'est le grand-père de Simon, et au cours de cet événement, Simon est pris à partie par son oncle qui, alors là je ne dis rien puisqu'on est vraiment dans les 15 premières pages du livre, prend son neveu, c'est un oncle un peu particulier dont on reparlera, qui prend son neveu à partie et qui lui fait cette, euh, cette révélation. Et je voulais vous demander si vous étiez d'accord qu'on commence cette discussion par lire un extrait de cette scène, parce que pour moi, il y a là-dedans ce qu'on appellerait peut-être un pacte de lecture avec, avec vos lecteurs de manière un peu scolaire. Du coup, peut-être qu'on pourrait poursuivre la discussion à partir de là.
Oui. Donc, je ne sais pas si cette scène a eu lieu. Il parle de la scène de la scène d'amour d'autrefois. Enfin voilà, entre le grand-père et cette jeune femme allemande. Je ne sais pas si cette scène a eu lieu. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle a eu lieu comme ça, dans ces circonstances. Je ne sais pas si la cour de cette ferme a jamais existé. Si cela s'est passé dans une grange, dans une chambre d'hôtel, dans les vestiaires d'un mess d'officier. Je ne sais pas quel visage avait l'inconnu du lac de Constance. Je ne sais pas si elle était blonde ou brune. Je ne sais rien. Je n'ai même pas cela. Un indice de couleur de cheveux. Un détail de silhouette, une façon de se tenir, un geste familier. Un éclat de rire sonore ou léger, un grain de voix, une humeur enjouée. Au contraire, une gravité qui n'appartenait qu'à elle. Je n'ai pas de photo, pas de récit de première ni de seconde main. Je vois simplement que cette scène me poursuit, que je l'ai mise dans un livre il y a des années, sans bien mesurer ce qui s'y jouait. Je vois que toujours mon imagination m'y reconduit, la fantasme, la rêve, avec son innocence, avec sa gravité, avec son vertige de conséquences imprévues, scène du désir plus fort que tous les interdits, avec sa déraison, son scandale, ses effets pendant des décennies ensuite, scène ordinaire, du désir ordinaire, avec son onde de choc ordinaire. Scène primitive à jamais manquante, que ni Malouchine ni cette femme ne sont plus là pour raconter. Matrice solaire et sombre à la fois, autour de laquelle je veux tourner, retourner, avant le jour où tous ceux qu'elle touche de près ou de loin seront à leur tour mis en terre, et où ne restera plus rien là-bas que le soleil sur le lac, et les montagnes alentour enneigées, et l'eau scintillante à jamais, contemplée par d'autres amoureux en promenade sur la rive, toujours nouveaux, émus comme Malouchi et cette femme avant eux, de marcher l'un près de l'autre, de se vouloir, à nouveau le désir, l'irrépressible besoin de se serrer, de se fondre l'un dans l'autre, à jamais les mêmes élans, électrisant les corps, dans les siècles des siècles. Je ne sais pas pourquoi ces deux amants-là me bouleversent, je sais seulement que cela fut, que ces deux bouches un jour de printemps s'embrassèrent, que ces deux corps se prirent. Je sais que Malouchi et cette femme s'aimèrent, mot dont je ne peux dire exactement quelle valeur il faut lui donner ici, mais qui dans tous les cas convient, puisque s'aimer cela peut être mille choses, même coucher simplement dans une grange, sans autre transport ni tendresse que la fulgurance d'un désir éphémère, l'éclair d'un plaisir suraigu, dont tout indique que Malouchi et cette femme gardèrent longtemps le souvenir. Je sais que de ce plaisir naquit un enfant qui vit toujours là-bas près du lac et que ce livre est comme un livre vers lui.
Merci beaucoup. C'est pour le livre. Ce livre est comme un livre vers lui, donc c'est Simon qui parle et je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette entrée dans le livre, puisqu'il dit à la fois la place de la fiction, son imagination vers cette scène qu'il n'a pas connue mais qui pourtant va irriguer tout ce qui va suivre, et il dit aussi ce que représente la littérature pour lui, c'est un geste vers l'autre, et c'est vrai que je parlais de l'altérité tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi de... C'est presque un programme, en fait, cette introduction, de la mettre là, comme je la trouve à la fois très cérémoniale, et elle nous prend par la main pour rentrer dans le texte. Pour vous, c'était une manière de poser les choses, d'entrer avec cette présentation si forte?
Oui, en fait, au début, j'avais commencé par la scène suivante, qui est la scène à l'enterrement, où Simon apprend l'existence de cet enfant. Et après, je me suis dit non, qu'il fallait qu'il y ait l'origine en fait au début du livre. J'avais envie de cette scène qui raconte le moment de l'acte en fait, le moment inatteignable où est la cause première en fait, où est l'origine, la matrice de tout après, puisque tout vient de là, toutes les conséquences pour tous ensuite, et même le désir d'écrire ce livre. Enfin voilà tout. Évidemment, toute la vie compliquée qu'a ensuite le M, mais aussi même toute la famille qui se trouve avec cette chose jamais racontée au milieu d'elle-même. Enfin voilà. Moi, je tenais beaucoup à essayer de faire comme une scène de fiction. Je la raconte cette scène en fait vraiment En la racontant très précisément, d'abord comme si je savais parfaitement comment elle avait eu lieu, je joue le jeu de la fiction, je la pose, et après je voulais casser ça absolument, comme effectivement un peu un pacte où... moi j'aime pas du tout j'avais pas envie de scène en costume, quoi, enfin de scène de roman historique, enfin je fais la scène en costume un peu, parce qu'on peut pas s'empêcher de la rêver cette scène, de l'imaginer, et après en même temps je dis non mais... on va pas faire ça. Enfin, je veux pas faire ça. J'ai envie de montrer que sans cesse l'écriture se demande comment ça s'est passé, fait des hypothèses, échafaude, et qu'on en est tous réduits à ça toujours. Voilà.
Donc cette scène en costume, c'est un soldat français qui est posté près du lac de Constance, qui a une passion avec une femme, l'allemande du lac. Et qui, bien des années après, on découvre qu'il y a un enfant qui naît de cette union, M. Cette Allemande, elle était déjà, c'est ce que vous dites dans ce qu'on vient d'entendre, elle avait déjà fait, vous y avez déjà fait référence dans un livre précédent, mais à la manière de cette scène de blow-up que vous citez plus loin dans le texte, vous n'aviez pas vu à l'époque ce que cachait cette révélation. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette chronologie qui est assez invraisemblable ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Là avait dit Bailly ». C'est grâce à ce livre d'ailleurs que pour la première fois je suis venu aux correspondances il y a plus de 10 ans, et donc il a une place particulière. Mais en tout cas c'est un livre qui se passait pourtant tout entier en Algérie, avec d'anciens ouvriers de la ferme dont s'était occupé là-bas mon grand-père, mais donc jusqu'à l'indépendance en fait. Mais donc ça remonte, c'est des histoires qui remontaient à il y a plus de 50 ans. Et moi, je suis retourné des années après, parce qu'il y avait encore un lien, une correspondance un tout petit peu entre un des ouvriers et mon grand-père. Je suis retourné là-bas et j'ai passé du temps avec des hommes qui avaient vieilli de 50 ans depuis, et qui se rappelaient très fort beaucoup de souvenirs avec ce grand-père qui s'appelle Malouchi, là, dans le livre. Et il me disait, j'avais été très frappé par l'un d'eux qui me disait « Ah, ton grand-père parlait toujours de l'Allemande du lac de Constance, hein, l'Allemande du lac de Constance. » Et donc j'ai mis ça dans le livre. Mais ce que je savais pas du tout, c'est qu'en fait, c'était, pour moi, c'était une sorte d'histoire d'amour un peu incandescente qu'on se rappelle de... Mais ce que je n'imaginais pas, c'est qu'en fait, c'était un secret beaucoup plus grave que ça, puisqu'il y avait eu un enfant qui avait été conçu à ce moment-là. Et donc, je savais qu'une toute petite partie de effectivement, et ça me fait penser à... Ça m'a tout de suite fait penser à Blow Up, où on croit avoir photographié... Enfin, au premier plan, il y a quelque chose qui est ce qu'on a cadré, et en fait dans le fond de la photo on découvre qu'il y a un crime, ou là en l'occurrence c'est pas un crime, c'est la conception d'un... Mais je me suis dit voilà, il faut maintenant que j'aille voir de plus près dans la photo.
Un secret peut en cacher un autre finalement.
Exactement.
Alors ce secret il lui vient par Franz, c'est un oncle par alliance, une pièce rapportée presque assez récente, dites-vous. Et tout de suite s'oppose en fait, Franz est allemand, le monde de presque de la transparence qui serait celui du côté de l'allemand, qui ne veut pas cacher, qui parle, qui donne, et de l'autre côté, avec les paysages de l'Allemagne et bientôt du lac de Constance où on va aller presque espionner, et de l'autre, tout le côté de la famille plus méridionale, avec cette chaleur qui va aussi être l'endroit du secret, du tabou, et il y a presque ces deux univers comme ça, en clair-obscur, enfin, vraiment comme deux contraires qui vont chercher à sillonner l'un à côté de l'autre. C'était évident pour vous cette différence de paysage et de climat ?
Il y avait en tout cas tout de suite dans la découverte de ce secret, il y avait tout de suite la surprise aussi de se découvrir relié, de découvrir une famille que j'avais toujours vue comme très méditerranéenne, effectivement, avec une histoire avec l'Algérie, une histoire en Italie, enfin voilà, plutôt de ce côté-là, de lui découvrir un lien avec l'autre côté du Rhin, et ça l'agrandissait considérablement. Et oui, tout de suite, je me suis dit, en fait, c'est beau quand on se découvre un lien avec un... Pour moi, en plus, c'est je parle pas allemand, enfin c'est vraiment c'est un ailleurs quand même. Je connais beaucoup plus toute la Méditerranée et donc oui, il y avait comme un découvrir que les choses sont plus vastes qu'elles ne le sont, et pour pour revenir à cette scène, en fait, pour moi, c'était vraiment lunaire ce moment où j'ai appris cette... Parce que bon, tout ça, bien sûr, moi après je fais un roman, mais ça part d'un matériau familial. Moi je trouve que ça sert à rien de le cacher, parce que c'est au contraire, c'est intéressant même de voir comment on part d'un matériau et après le livre il démarque plein de choses. En tout cas, cette scène, ce qui était fou, c'est que moi j'avais effectivement écrit un livre quand même 10 ans plus tôt, dans lequel il y avait déjà mon grand-père, un livre qui avait fait beaucoup de remous quand même familiaux. Bref, en tout cas, cet oncle qui vient me dire ça, me souffler, me donner cette bille, me dire, tu sais, là, il n'y a que 4 enfants de ton grand-père, mais il y en a un 5e dont personne ne parle et qui aurait pu être là. C'était fou parce que c'était vraiment venir provoquer de sa part. Il y avait un geste de qui dégoupillait le silence, qui était... Il savait très, très bien ce qu'il faisait. Enfin, voilà, donc il y a... Pour moi, ça, c'est un... Ben voilà, je me suis dit, c'est des choses de ouais, qu'on reçoit et qui profondément dont on se sent aussi après. Moi je me disais, là il m'a dit quelque chose qui est important. Et s'il me le dit, c'est que il veut lui aussi que ça vole en éclats tout ça. Et donc ça a enclenché après moi tout de suite le désir de raconter cette scène. Je me suis dit, surtout je vais essayer de raconter la confusion de cette scène d'enterrement de au milieu de tout ce dans un moment où on est ému, on est un peu fatigué, épuisé, on se bouscule un peu, on parle, et des choses sont dites comme ça, qui sont capitales en fait, et on les entend dans un sur fond de brouhaha, un peu comme ça, et on sait que chaque mot va être décisif. Et c'est pour ça que l'écriture de ce chapitre de l'enterrement, elle est un peu tourbillonnante, elle essaie d'être au plus près des sensations et de la sidération en fait de Simon qui reçoit cette nouvelle.
C'est vrai qu'elle est tourbillonnante et quand j'essayais de trouver des mots pour décrire votre écriture, parfois il y avait le mot lévitation qui me venait, parce que dans cette manière aussi de remettre en jeu les dialogues, parfois vous répétez comme ça à plusieurs reprises une phrase, vous modifiez 2-3 mots, c'est comme si vous la faisiez vraiment tourner en bouche pour la désosser, quoi, pour vraiment qu'on... On puisse la lire jusqu'à ce que tous ses sens soient extraits. Vous pressez comme ça le langage quelque part.
Non, c'est exactement comme vous dites, c'est-à-dire que comme pour qu'elle s'enfonce bien dans la... En fait, pour essayer de rendre aussi la sensation de Simon qui... On se met tout d'un coup à lui parler de M. Tu connais M, bien sûr, tu es au courant tu sais qu'il y a là-bas quelqu'un, un oncle qui s'appelle M, tu le sais quand même. Et lui, bien sûr, ne sait rien. Et dans ces moments-là, les choses rebondissent en nous, elles ont une onde de choc comme ça qui met du temps à descendre en nous. Et oui, c'est pour ça que je les répète comme pour aggraver le coup, en fait, porter. Et qu'à chaque fois, ça, comme vraiment comme quand on jette une pierre dans l'eau et qu'elle fait des...
Comme une chambre d'écho.
Comme une chambre d'écho aussi, voilà. Mm-hmm.
Alors, du coup, il faut dire aussi que cette histoire résonne très fort dans la vie de Simon, puisque sur le plan personnel, il vit aussi une transformation dans sa famille. Il est en train de se séparer de sa compagne avec qui il a passé 20 ans, avec qui il a 2 enfants. Et donc forcément, il y a une collision entre ce qu'il vit personnellement et ce qui se passe sur un plan au-dessus et ce qu'il va aller chercher. Alors, dans l'extrait que vous avez lu, vous parlez de ces scènes d'amour, et donc évidemment il va y avoir toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'amour, est-ce que l'amour c'est un couple, est-ce que l'amour peut perdurer, quel était l'amour qui peut être lié Malouchi à l'allemande. Ça, c'est des questions qui vont venir ponctuer en fait toutes les scènes, et évidemment vous avez la délicatesse de ne pas le formuler ainsi, mais disons qu'à partir de là, où il y a une pelote qui va se dérouler sur ces réflexions sur qu'est-ce que c'est de faire famille et qu'est-ce que c'est de défaire famille. Alors, je ne sais pas si, évidemment, ce n'est pas très important de savoir si ce parallèle s'est opéré pour vous, mais c'est surtout comment est-ce que vous l'amenez dans l'écriture pour aussi bien l'équilibrer que vous l'avez fait dans ce livre.
C'est vrai que ça, c'est important que le fait qu'à Simon il arrive ça à ce moment-là, en fait. Il est dans une solitude qui est toute nouvelle, voilà, dans un il va pas très fort au début. Enfin voilà, il est dans un état un peu de vacillement, de ça, tout un équilibre qui était son équilibre familial a volé en éclats, et donc il vacille. Et moi, ça m'intéresse toujours les narrateurs qui sont dans cet état-là, parce que c'est des états de où les questions se multiplient, c'est des états aussi d'hypersensibilité, de et donc je voilà, c'est vrai que ça crée entre ça fait de Simon, au moment où il apprend l'existence comme ça d'un enfant qui donc a été toute sa vie caché, a jamais été reconnu par son père, donc a dû vivre quelque chose de très très douloureux. Il en prend tout de suite la mesure. Ça fait de lui un être qui peut se relier, qui peut compatir, qui se découvre presque un frère dans la solitude, en fait, qui est la sienne, sa solitude nouvelle. Et il a envie de savoir ce qui est devenu. Il a d'autant plus envie de savoir ce qui est devenu M. C'est le nom de cet enfant dans le taxi, voilà. Que lui-même se demande ce que va être sa vie maintenant. Et c'est vrai ce que vous dites sur la question de la famille qui se fait, qui se défait, de l'amour qui dure ou qui se termine. Enfin voilà, il y a vraiment la question de savoir ce que le temps fait au lien, y compris la façon dont des silences, dont des une histoire d'amour qui s'est passée il y a deux générations, comment est-ce qu'elle continue de vivre dans le silencieusement dans toute une famille, en fait.
Je crois aussi que c'est peut-être pas un hasard si ce M vit au bord du lac de Constance. Dans votre précédent ouvrage, Les Orages, je crois qu'il était, un recueil de nouvelles, et je crois qu'il était vraiment question de comment faire Constance dans sa vie quand les orages passent au-dessus de nos têtes, et quand parfois la tentation de l'explosion est imminente, enfin en tout cas l'explosion est imminente, comment se protéger de l'orage pour faire Constance. Alors là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se délitent, mais on a l'impression qu'il trouve ce Simon d'autres manières aussi de faire Constance dans un amour qui est détourné. Vous l'avez dit, il a un sentiment de fraternité immédiat avec M. Vous écrivez qu'il se sent avec lui dans l'ordre parmi les intranquilles, les boiteux, les insatiables. Et ça, je trouve que c'est très beau, cette manière dont il va se projeter dans la vie de cet homme, bien avant de connaître quoi que ce soit sur lui. Il y a comme ça une fraternité, un miroir presque, qui se fait.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'au début, il sait très peu de choses, en fait. Donc, il projette sans cesse sur cet inconnu, en fait, des images qui parlent de lui, surtout de sa propre souffrance. Enfin, mais en tout cas, M joue vraiment le rôle d'une sorte de point de fuite, de miroir qui est au loin comme ça, et qui peut-être va le renseigner un peu sur lui-même. Oui, non, mais c'est vraiment comme vous dites.
On pourrait presque penser à un moment qu'il ne se dépêche pas de le rencontrer, parce qu'en fait, l'attente lui permet d'avoir cet espace où, en fait, un espace en négatif, où tout ce qui ne va pas dans sa vie, il le projette en positif sur le lien qu'il pourrait avoir ou ce qu'il imagine de la vie de M.
Complètement, c'est-à-dire que ça l'arrange bien, au fond, de toujours pas connaître M, de toujours pas avoir plus de détails sur la vie de M, parce que du coup, il est libre d'imaginer ce qu'il veut. Et ça, c'est vrai du rapport à la fiction en général. En fait, moi-même, écrivant ce livre, j'étais au début, je me disais, je sais pas assez de choses, et en fait, assez vite, je me suis dit, mais au contraire, c'est parfait que je sache pas plus de choses. D'abord, ça va me permettre d'éviter d'être dans la mise à nu de la vie de quelqu'un. Enfin, ça me donne une liberté immense. Je me suis dit, au contraire, ce que j'ai envie de raconter, justement, c'est l'impossibilité de savoir. Et vraiment, je pense que c'est un livre là-dessus. C'est un livre sur comme dans toutes les familles, en fait. Il y a mille choses qu'on ne saura jamais, qui sont défendues comme ça par un massif de silence, de non-dit. Et le livre, il parle vraiment de ça. Il essaie de raconter un personnage qui lutte contre le silence, mais qui, de toute façon, toujours rattrapé par ce silence et qui lui-même produit du silence. Il est, par exemple, il met énormément de temps à oser dire qu'il est, y compris à ses oncles et tantes, qu'il est séparé. Et il est donc il se fait l'apôtre de la vérité, mais lui-même a du mal à dire, en fait. Bon, je pense que vraiment ça c'est une dimension importante du livre, le fait que ça essaie de montrer toutes nos ambivalences à tous, en fait, même quand on veut la réparation. Enfin voilà, en tout cas, Simon, il a plein de contradictions. Il n'échappe pas du tout à la pelote de nœuds et d'émotions de la famille. Il est lui-même parfois dans une naïveté ou dans un... Enfin, ouais, voilà, enfin, il n'est pas en surplomb, pas du tout.
Le romancier sud-africain disait, André Brink disait, le romancier est toujours déçu par le réel. Mais vous, Sylvain Prudhomme, j'ai l'impression que vous êtes toujours émerveillé par le réel.
Mais c'est un entre-deux, c'est-à-dire qu'effectivement, moi j'aime partir de faits du réel qui me frappent très fort, effectivement. Bon, là voilà, le jour où j'ai vécu cette scène là de l'enterrement où on m'a soufflé ce secret, je me suis dit c'est pas possible, cette scène est trop incroyable. C'est sûr qu'un tôt ou tard je raconterai ça, je veux le raconter. Il se passe un moment décisif là, maintenant, tout de suite. Pareil quand j'ai appris la scène du taxi, enfin quand on m'a raconté, mais c'était un récit très vague. De cette scène, bon bah je sais pas s'il faut, enfin en tout cas d'un enfant qui essaie d'aller voir son père comme ça, en quitte à traverser 1000 km, à monter dans un taxi, à convaincre un chauffeur de taxi pour aller le voir, pour aller frapper à la porte de son père. Je me suis dit bon, ça c'est le réel, des fois il donne des choses comme ça qui sont qui ont une force en tout cas moi j'ai l'impression que je sais pas imaginer des choses qui ont cette force là. C'est pareil dans la Avedi Bailly, j'avais eu vraiment des surprises gigantesques avec ce en allant là-bas en Algérie, en découvrant que tous les ouvriers de mon grand-père étaient en fait FLN, faisaient la guerre contre les Français, et que tout ça, sa ferme était le quartier général du FLN, qu'un ouvrier dont il avait cru qu'il avait quitté la ferme pour s'enfuir et pour aller prendre le maquis, était en fait mort, parce qu'il s'était enfui parce qu'il devait le tuer. Il était maquisard depuis le début, il devait le tuer, et il est mort de ne pas l'avoir tué, en fait. Donc c'est des sortes de comme ça, de... Je sais pas. Ouais. Ah oui, non, alors je pensais pas à ça. Non, je veux dire, c'est des sortes de coups du sort ou de situations de la vie qui ont un potentiel de... Je sais pas comment dire. Qui recèlent en eux tellement de d'émotions, de vie, de moments décisifs pour la vie de plein de personnes. J'ai envie de partir de ça. Après... C'est vrai que ça m'arrange aussi de ne pas savoir tout. J'aime composer à partir de quelques pierres comme ça, et au milieu, après, ça me laisse toute liberté.
Alors c'est vrai que cette histoire, pour le coup, elle implique énormément et elle a beaucoup de rebondissements. C'est une véritable enquête, en fait, aussi, ce livre, alors que vous avez sûrement mené de votre côté, que vous reproduisez avec ses rythmes, avec ses suspens, qui est vraiment extrêmement à la fois prenante et en même temps émouvante pour ce qui s'y passe. Et on ne peut pas la raconter si on ne parle pas des personnages secondaires qui ont des conflits d'intérêts qui vont se jouer autour de Simon, des résistances surtout qu'il va rencontrer dans cette quête de vérité. Moi, ce que j'ai trouvé très beau dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont plus âgés que lui, puisque cette histoire concerne les générations qui le précèdent. Et je trouve ça très beau de mettre en scène ces personnages qui ont jusqu'à 95, 96 ans, et qui, en fait, sont riches de toute une vie, et de toute une vie parfois aussi de secrets, et de voir un peu, justement, ces résistances. Je pense évidemment à la grand-mère, à la mère. Vous pouvez un petit peu nous parler de cet échiquier extrêmement serré sur lequel évolue Simon.
Oui, j'ai essayé de représenter comme ça les figures un peu cardinales de la famille autour de lui. Et évidemment, celle qui est tout en haut de la famille, enfin, c'est la grand-mère, qui vient de perdre son mari, Malouchi. Et elle s'oppose très très fort à Simon, elle lui passe un savon gigantesque dès qu'elle apprend qu'il veut en savoir plus sur M. Donc elle le convoque et elle lui tombe dessus très vertement. Mais j'ai voulu que ce soit un personnage qui, évidemment, elle pose cet interdit, elle lui dit « si tu vas là-bas, je te bannis ». Mot qui laisse Simon un peu perplexe parce qu'il se demande à quoi ça peut bien correspondre, en fait, un bannissement. Il dit, qu'est-ce qui va se passer si je suis banni par ma grand-mère de 95 ans? Il sait pas bien à quoi ça pourrait correspondre, mais en même temps, il est bien obligé de voir que ça l'atteint, que ça le... Ça lui fait mal, ça lui fait peur. Et ça, j'essaie de raconter ça aussi, l'ambivalence toujours qu'on a vis-à-vis de la famille, à la fois parfois de pester contre, d'être révolté par plein de choses qui se passent. Et en même temps, ça fait quelque chose d'être mis de côté, la possibilité d'être mis de côté. Donc, et moi, j'ai voulu donc que ce personnage de la grand-mère, c'était important pour moi qu'elle bouge petit à petit, qu'on sente qu'en fait, elle... Peut-être qu'elle aussi, elle a peur de tout ce que ça peut dire, la peur de repenser à tout ça. Elle pose cet interdit comme ça, très fort. Et puis en fait, après, on voit que c'est un être aussi qui est très sensible, qui aime bien en fait quand même son petit-fils. En fait, c'est vraiment ça arrive à tout le monde en même temps dans la famille, le surgissement de ce secret. Et je pense que j'essaie de raconter comment chacun après... refait un chemin par rapport à la fracture que ça crée, l'irruption de la parole, quoi, en fait. Et donc elle bouge. Il y a aussi, on voit aussi comment chacun se débrouille du passé, en fait, des blessures, de tout ce qui est douloureux. Ceux qui n'ont pas du tout envie d'en entendre parler, je fais un portrait de la mère, de Simon aussi, en pensant très fort à ma mère, évidemment, voilà. Et j'essaie de raconter aussi comment elle a un autre rapport au passé, qui est par ras-le-bol peut-être de toutes les affaires de son père, de tout ça, c'est de dire non, moi je veux pas entendre parler de ça, c'est pas parce que j'ai pas d'empathie pour ce frère inconnu, c'est juste que moi je me suis construite en voulant pas entendre parler de tout ça, et c'est aussi une stratégie en fait vis-à-vis du passé que plein de gens utilisent et qui peut marcher pas mal.
Ouais. Elle fait de l'ordre. Elle fait de l'ordre dans le passé, dans la maison, elle fait de l'ordre. Elle laisse rien dépasser. Et en même temps, c'est toujours plus facile pour les générations suivantes de se confronter aux affaires, aux secrets et aux événements. Donc finalement, il est peut-être à la bonne place. Et si on poursuit comme ça cette présentation familiale, il y a ses fils. Alors, ses fils, je trouve ça très intéressant parce qu'ils sont un peu le pare-feu, ce qui va le ramener à terre pour ne pas aller se perdre trop loin, justement, dans ces histoires. Ils ont quelque chose de terrien pour lui.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il se retrouve à passer plus de temps que jamais avec eux et seul avec eux. Et donc, ça devient son sol, son assise, en fait. Et ça crée aussi plein de moments... assez forts entre eux, qui pour Simon rendent d'autant plus douloureux d'imaginer M sans père, en fait. Je pense qu'il y a vraiment, effectivement, une des choses qui reviennent beaucoup dans le livre, c'est cette question du rapport père-fils. Enfin voilà, quand il est... Simon, par moment, c'est cette relation-là, est-ce qu'il le rend heureux, est-ce qu'il le fait tenir, et on voit bien, enfin, sans cesse, le livre se demande ce que c'est que M, comment il a vécu sans père. Donc il y a ce contraste sans cesse.
C'est aussi un livre qui questionne, et je crois que c'est un questionnement qui afflue dans vos livres. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme? Qu'est-ce qui fait un homme aussi? Et quand vous questionnez justement la figure de ce grand-père qui est capable de se tenir debout au milieu des bombes, mais qui s'enferme à triple tour quand son propre fils vient le chercher. Et il y a un paradoxe énorme, en fait. Alors, au tout début, vous dites que c'est un corps qui n'est pas fait pour la guerre. Vous faites dire que ce n'est pas un corps qui ressemble à la guerre. Et pourtant, ça va être un homme au tempérament martial aussi.
Ça va.
Un homme au tempérament martial.
Oui. Bravo.
La caravane passe.
Mais je pense qu'effectivement, c'est à chaque fois, moi j'aime bien Oui, cette question de comment est-ce qu'on... Oui, peut-être quelle forme de virilité, là, ils ont ces personnages, là, ce grand-père, effectivement, l'allemande, la jeune femme allemande le décrit comme très délicat, presque féminin, enfin voilà. Et je pense que c'est une des questions qui m'intéresse, enfin, d'où d'où vient, enfin, j'aime m'interroger la façon dont, ouais, dont on peut être homme, effectivement, et je vois bien que j'aime les moments où ça se renverse, en fait, où le, bah, le courage, là, indépendamment de la question de d'être homme ou pas, mais tous les personnages, hommes, femmes, là, les moments où on découvre du courage chez le personnage qu'on imaginait faible ou lâche, et l'inverse aussi, évidemment. J'ai pas de... Enfin, je crois que j'aime bien raconter les moments où on fait défaut, où on est lâche, où on... Enfin, ça m'intéresse, quoi. Enfin, j'ai pas... C'est, effectivement, je pense que c'est peu... C'est pas des personnages, aucun d'eux... De grand héroïsme ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse les moments où le héros il chute un peu. Ça, je crois que j'ai toujours envie de raconter des moments où on chute. Il y a quelques, je pense qu'il y a deux personnages qui sont des personnages de pour le coup qui ont un courage immense. C'est ce Franz qui vient jeter le secret en, enfin voilà, le briser, quoi, voilà. Et il y a un grand oncle aussi qui s'appelle Louis. Et qui tient tête à... c'est le frère de la grand-mère, en fait, voilà, et qui, lui, va oser parler. C'est lui qui va raconter la scène du taxi à Simon. Et au moment où Simon est presque banni, il lui dit, moi, il lui envoie une lettre en douce en lui disant, moi, si tu veux, je peux te parler. Et en fait, c'est des personnages qui ont un courage immense. Et on comprend que les deux, en fait, ils ont aussi des blessures immenses, en fait. Ils ont... Ce courage, il est le... Encore une fois, il est le revers d'un... Oui, d'avoir beaucoup subi cet ordre familial, de l'avoir payé cher, en fait. Et du coup, il se dresse.
Alors, c'est un courage qui est d'autant plus admirable qu'il est silencieux, qu'il est presque, il est fait dans la discrétion la plus totale. Alors, on ne va pas trop creuser là-dedans parce qu'on ne voudrait pas révéler toutes les ficelles de ce texte. Peut-être dire, alors c'est quelque part une presque banalité de dire qu'il y a la petite histoire dans la grande histoire, qu'en vous lisant, on se souvient que 400 000 enfants sont nés d'union, enfin de franco-allemand, de soldats alliés en Allemagne, que chacune de ces 400 000 vies porte en elle un secret, un drame, un vide, et qu'il y a aussi dans cette quête d'identité quelque chose qui va faire avancer le livre à différents niveaux. Je trouve qu'à un moment donné, Simon va prendre sa voiture, embarquer ses fils avec lui et faire route jusqu'à l'adresse de M. Il y a dans ce chemin qu'il va parcourir vers lui une manière de rembobiner aussi ce que l'histoire a mal fait dans ce voyage secret.
Oui, parce qu'il fait presque le voyage inverse de... Enfin, il retourne là-bas comme son grand-père a fait cette route, mais lui, après avoir débarqué en Provence, en fait, il a... Effectivement, il est passé par les mêmes endroits pour avec les troupes qui poursuivaient les Allemands de l'autre côté de la frontière. Et ensuite, c'est une route qui finalement a été pas mal empruntée parce qu'après il y a cet enfant M qui a essayé de venir voir son père. Oui, il y a comme l'idée de faire, mais sans illusion que ça répare. Moi, je pense que Simon, il n'est pas quand même dans l'illusion de qu'il va réparer quelque chose. Il sait bien que 70 ans sont passés, que la vie a été, la vie elle est passée, la vie de M, enfin elle n'est pas finie. Mais et ce qui peut se jouer dans le fait que de la rencontre, quand même, va modifier la couleur de cette vie, quand même, probablement. Mais il est pas, il prétend pas tout. Il sait bien que ça va pas réparer tout. La souffrance qui a été vécue, elle a été vécue. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est. Oui, c'est comme une façon de rejouer l'histoire en mode mineur ou en mode aussi en mode jeu, là quand même, enfin voilà, avec aussi presque de l'humour avec ces enfants qui sont là, ils partent un peu comme trois branques quand même, enfin en se trompant à moitié d'adresse et je pense que l'important, c'est effectivement le plus important presque, c'est le fait qu'il s'autorise à le faire, en fait, qu'il y aille, que tout simplement il monte dans sa voiture et qu'il réalise qu'au fond il y a 10 heures de route qu'il ne sait pas et qu'il peut y aller tout de suite s'il veut.
C'est le mouvement, la nécessité aussi du mouvement. Alors on a dit en début de discussion que en parallèle à cette enquête familiale, il y a aussi cette réflexion sur qu'est-ce que c'est de faire couple et surtout de faire rupture. Comment avec des très belles réflexions sur comment se séparer tout en préservant une forme d'amour, comment l'amour continue à exister au-delà parfois de la séparation d'un couple. Et ça, c'est un miroir qui va être montré avec ce grand-père et l'Allemande dont on pense qu'il a continué à l'aimer, dont on a beaucoup de raisons de le penser. Au fond, derrière ces questionnements, il y a aussi comment être heureux à travers tous ces événements que la vie nous présente. Quand il pense à M, Simon conçoit l'idée d'un homme amer, alors que lui-même essaye de trouver des raisons de ne pas le devenir dans sa séparation, quand il vit les premiers moments sans ses enfants, les premières fêtes de famille sans sa compagne. Il y a cette résistance face à l'amertume qu'il va essayer de mettre en place.
Oui, il y a un moment où il imagine la possibilité d'un M qui serait encore, toutes ces années après, furieux. Enfin, mais c'est même une possibilité assez, assez probable. Enfin, voilà, il y a ce contraste entre... Il s'accuse presque un peu d'avoir idéalisé cette histoire d'amour, en fait, de l'avoir rêvé belle, d'avoir toujours presque fantasmé l'intensité de cet amour-là et d'avoir peut-être d'avoir totalement méconnu et sous-estimé la souffrance qui avait été celle de M. Donc il se dit au bout d'un moment, mais en fait moi je veux aller le voir, mais peut-être qu'il a pas du tout, peut-être qu'il a plus du tout envie d'entendre parler d'aucun de nous, et qu'il est dans une blessure, une souffrance éternelle qui fait que moi je suis complètement à côté de la plaque. Enfin, voilà, il se pose cette question, effectivement. Ouais.
Et Simon, c'est justement dans ces moments où il se retrouve seul, où il n'a pas la garde de ses enfants, et il y a un léger vertige, où il se demande à quoi il sert et qui il est. Et là, on retrouve aussi un petit peu... moi, j'ai beaucoup pensé, bien sûr, au narrateur de Par les routes, puisqu'il y a ce goût du voyage qui le reprend, mais ce goût du voyage qui n'est pas spectaculaire, mais simplement de se lancer sur les routes et de voir ce qui peut advenir. Et pour ça, j'aimerais bien qu'on lise un petit extrait, si vous êtes d'accord, de relire. Alors, vous pouvez le contextualiser, puisque Simon est écrivain, il lui arrive de temps en temps d'aller dans des salons et des festivals et de vivre des moments de sociabilité, de rencontres qui peuvent être plus ou moins intense ou éphémère, et quand il rentre, il se retrouve à Paris et il erre un peu, il ne sait plus très bien qui il est ni où il va.
Oui, je prends là. Donc là, il vient effectivement de vivre une histoire d'amour d'un soir, en fait, et c'était près d'un lac, et il se dit, en fait, moi aussi, j'ai vécu une histoire d'amour près d'un lac. Donc il est un peu dans l'exaltation de ça, et puis il revient, bon, et la vie est quand même... La vie est toujours la vie, enfin voilà, et ses problèmes ne sont pas tellement résolus...